Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107 FM.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Salut Virginie.
Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Bonjour Léo.
Bonjour, bonjour, je suis toujours aussi prêt sur le bouton.
J'adore lui faire la blague. Alors, d'abord, on débute par une petite annonce avant de rentrer dans notre sujet d'émission. On vous annonce qu'il va y avoir un grand temps forestier, une grosse fête, le 16 juin, à la Grand Combe, la fête de la forêt, deuxième édition. Voilà, donc vous êtes bien sûr toutes et tous invités et on vous dévoilera le programme dans les prochains mois à venir. Et donc aujourd'hui, on va faire une émission spéciale. Tu veux nous en parler, Margot ?
Ouais, on va parler de la Guyane et de sa richesse en biodiversité.
Oui, parce que comme vous savez, on fait un petit peu la tournée des forêts, des départements, régions, territoires d'outre-mer. Et donc après la Guadeloupe et la Corse, on s'arrête en Guyane avec Maëlle De Winter, écologue naturaliste et illustrateur également, indépendant. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et alors avant de découvrir cette région-là avec Maëlle, on a préparer quelques petits chiffres pour bien déjà situer le territoire. Donc on s'envole à 7000 km de la France, en Amérique du Sud, donc avec une zone qui est frontalière avec le Brésil et le Suriname. Donc la Guyane qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est donc un territoire français qui est différent de la République coopérative de la Guyane, qui est un autre pays du coup d'Amérique du Sud. La Guyane qu'on découvre, elle est boisée à 97%. C'est donc la région française la plus boisée. Et c'est aussi le parc national français le plus grand en surface. On le trouve donc sur la côte atlantique de l'océan Atlantique et c'est le seul territoire d'outre-mer qui est continental. En termes d'habitants, on est sur un territoire qui a environ 290 000 habitants, un tout petit peu moins, et en surface qui est quand même assez important avec plus de 83 000 km². Pour vous donner un ordre d'idée, il est donc divisé en deux arrondissements, Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, et en 22 communes. Et la commune la plus grande, elle fait trois fois le territoire du département de la Lozère. Donc c'est assez énorme. C'est une des zones la plus riche du monde en matière de biodiversité, et c'est ce qu'on va découvrir dès maintenant avec Maëlle. Donc Maëlle, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais en Guyane ?
Alors oui, je suis écologue tropical, je suis plutôt spécialisé dans la faune et en particulier les amphibiens et les reptiles. Comment dire, j'ai découvert la Guyane il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. J'étais étudiant en biologie et en fait j'étais venu bosser comme bénévole pour le WWF sur les tortues marines. Et je suis tombé complètement amoureux de la Guyane à l'époque, j'avais 19 ans. Et quelques années plus tard, en fait, j'ai eu l'opportunité de venir travailler pour l'Office national des forêts, comme à l'époque c'était un service civil. Et je me suis retrouvé projeté en forêt, puisque très vite j'ai été chargé de gérer une réserve naturelle, une des plus grandes réserves naturelles de France, la réserve de la Trinité. Et à partir de là, j'ai enchaîné des missions naturalistes en forêt. Et progressivement, je suis devenu un petit peu expert de, on va dire, la faune, mais surtout les amphibiens et les reptiles. Et de nos jours, maintenant, je suis à mon compte, je suis indépendant. Je collabore beaucoup avec le parc national, avec les réserves naturelles. Notamment, je donne pas mal mon avis sur la gestion des espaces protégés. Et je mène des inventaires de faune pour ces organismes. Et plus récemment, j'étais illustrateur quand j'étais jeune, animalier. Et plus récemment, je m'y suis remis sérieusement et ma petite contribution maintenant à la Guyane est de produire des guides naturalistes illustrés sur la faune.
Merci. Et alors, cette forêt guyanaise, alors à quoi elle ressemble ? Elle appartient plutôt à des personnes publiques, à des propriétaires privés, et puis quelles sont les essences emblématiques ?
Alors, globalement, la Guyane, c'est l'essentiel du territoire, c'est un domaine privé de l'État, donc elle appartient vraiment à l'État. À part sur le littoral et quelques zones qui sont soit des terrains privés qui appartiennent à des particuliers, soit des terrains communaux, On va dire que quand même l'essentiel de la superficie est géré par l'État, avec on va dire trois grandes zones en fait. Une zone côtière où se concentrent en fait les activités humaines et le développement. Une large zone de 70 à 100 km de large en forêt, qu'on appelle le domaine forestier permanent, dans lequel en fait qui a vocation d'exploiter notamment la forêt. Et après au sud, un immense territoire en partie couvert par le parc national, le parc amazonien de Guyane. Et quelques petites communes isolées sur le long des fleuves, donc accessibles en pirogue, et dans le centre de la Guyane, la petite commune de Sahul, en fait, où il y a effectivement quelques terrains privés et terrains communaux.
D'accord, merci. On n'a pas demandé, parce que, alors, bien sûr, vous devinez, Aymeric, Margot et moi, et Léo, on n'est pas en Guyane. Et donc, où es-tu basé actuellement,
Maëlle? Ah oui. Alors, moi, je vis sur la bande côtière. Je vis à Cayenne, en fait, hein, qui est la préfecture. J'ai longtemps vécu en bordure de forêt, dans une maison en bois et en briques, avec un jardin qui donnait directement sur une réserve naturelle, la réserve du Mont Grand Matoury. J'en parlerai plus tard, mais bon, en gros, j'avais des jaguars qui traînaient dans mon jardin. Voilà, donc ça donne une idée. Et j'étais sur l'île de Cayenne, donc c'est vraiment le centre le plus développé quasiment de Guyane. Ça vous donne un peu une idée de la proximité de la forêt et de la nature ici en Guyane. Mm-hmm. Actuellement, je vis à Cayenne, donc je suis en ville, mais je suis à 100 mètres de la plage. Il y a des haras qui volent de temps en temps. Voilà,
ça va.
La nature est un peu omniprésente ici.
Ah, ça fait rêver aussi, d'accord. Et les essences, alors, qu'on peut retrouver dans la forêt guyanaise?
Alors, vaste sujet. Alors, j'ai un peu potassé, je vous avoue. Il y a une publication récente qui est sortie il y a 2 ans, 3 ans, qui fait un peu la liste un peu du nombre d'espèces d'arbres. Mmh. En Guyane, on a 1800 et des pépins espèces d'arbres.
C'est bien. Je crois que sur le territoire métropolitain français, c'est 300 ou...
Ouais, c'est pas loin de 10 fois moins, quoi.
Ouais, voilà. Ok, merci.
Et ben, 300, c'est globalement, on va dire, c'est les records, enfin, les moyennes hautes du nombre d'arbres, d'espèces d'arbres sur un hectare en forêt guyanaise.
Wow.
Voilà. Alors évidemment, c'est comme tout peuplement, enfin toute communauté, il y a très peu d'espèces très communes et une infinité d'espèces très rares. En réalité, si vous arrivez à déterminer 100 ou 200 espèces d'arbres, vous serez quasiment nommé la plupart des essences que vous rencontrerez en forêt, puisque les autres sont tellement rares qu'on tombe rarement dessus.
Est-ce qu'il y a une raison ou plusieurs raisons qui fait qu'il y a autant de diversité? Donc là, on parle des arbres, mais j'imagine que ce soit pour la faune ou autre type de végétaux, il y a une diversité qui est énorme. Et du coup, comment ça se fait qu'on ait à l'hectare autant de diversité?
Vaste sujet d'où vient la biodiversité en zone tropicale, ça c'est sûr. Je pense que déjà, ça vient... Alors bon, c'est toujours des travaux en cours, hein, y a tout un tas d'hypothèses, mais ça vient quand même d'une globale stabilité dans le temps de ces milieux-là. On est très proche ici de l'équateur. Ça veut dire que même sous des climats plus froids, plus secs ou plus chauds et plus humides, c'est resté relativement constant. Même si on a subi des changements climatiques et la forêt parfois a reculé au profit de la savane. Mais la relative stabilité ici par rapport, par exemple, aux zones tempérées, je pense à la France, à l'Europe, qui a été complètement gommée par des glaciations il n'y a pas si longtemps que ça, fait que la flore, la faune s'est maintenue ici. Voilà, c'est le premier point, une grande stabilité. Et malgré tout, il y a eu ces changements climatiques qui ont entraîné des assèchements de l'Amazonie, avec des grands couloirs secs de savane qui se sont créés, qui ont... En gros, séparer des faunes et des flores, qui ont été remises en contact lorsque le climat a changé. Et en fait, on est un petit peu ici au croisement de tout un tas de faunes et de flores qui ont reconquis progressivement le plateau des Guyanes. Ce qui fait que on arrive effectivement à des nombres d'espèces à l'hectare qui sont phénoménaux et une diversité globale qui est enfin, sans fin, c'est un puits sans fond, la Guyane. On découvre en permanence de nouvelles espèces. Enfin, voilà, pour faire simple. Et en fait, le troisième point, alors qui est plus lié à l'humain, c'est que la Guyane, malgré tout, alors on entend beaucoup parler d'orpaillage, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas la joie, mais c'est un territoire qui est globalement intact, quoi. Et qui n'a pas subi, comme les Antilles par exemple, les ravages liés à la colonisation avec énormément d'espèces invasives qui ont éliminé plein d'espèces endémiques ou une surexploitation. Ce qui fait que la Guyane est encore un des territoires les plus intacts au monde, je pense, et une des forêts tropicales les plus belles.
Superbe, merci. Et est-ce qu'on trouve quand même peut-être des espèces communes avec le territoire métropolitain ou pas? Ou c'est totalement différent?
Alors, globalement, c'est très, très différent. Hein. Oui. On est sur un autre continent, oui. C'est les néotropiques. Okay. Il faut imaginer le continent sud-américain, il a été isolé, il a été isolé depuis 100 millions d'années à peu près de l'Afrique. Donc, il y a 100 millions d'années qui séparent les faunes et les flores d'Amérique du Sud, avec celle de la Pangée, de l'Europe et tout ça. On a quelques points communs. Mais ce sont des espèces à très très vaste répartition, et ça sera pas dans les arbres. Ça va être le faucon pèlerin, par exemple. Ça va être la chouette effraie. Des espèces qui ont une répartition mondiale. Mais à part ça, non. non, il y a aucun point commun. Si ce n'est peut-être effectivement l'arrivée d'espèces exotiques qu'on pourrait retrouver, je pense notamment aux bousquets tigres et des choses comme ça, qu'on partage, quoi. Mais c'est pas.
Et parmi toute cette biodiversité, est-ce qu'il y a une ou plusieurs espèces préférées? Vous nous avez dit que vous étiez spécialiste des reptiles et des amphibiens, c'est ça?
Alors oui. En fait, ça fait 25 ans que j'habite ici. J'ai eu le temps de changer un petit peu. Mes goûts ont évolué. En gros, quand je suis arrivé en Guyane, j'étais vraiment complètement passionné par les amphibiens et reptiles, et j'ai commencé à travailler sur ces groupes. Pour info, quand je suis arrivé en Guyane, on connaissait 100 espèces de grenouilles en Guyane. Actuellement, on en est à quasiment 140. Donc on a trouvé 40 nouvelles espèces en 20-25 ans. Et après, je me suis intéressé pendant 10 ans aux chauves-souris. Okay. C'est devenu ma passion. Il y a une centaine d'espèces de chauves-souris en Guyane. Et puis ça a changé. Une petite passion pour les mammifères, les grands mammifères, un peu les oiseaux. Et là, je suis revenu depuis quelques années, effectivement, à mes premiers amours. Les anons, justement. Et les serpents, en gros. Lézards, serpents, amphibiens. Pas avec une préférence particulière sur une espèce. Elles sont toutes originales, incroyables, avec des modes de reproduction de fou. Mais le groupe, en général, est passionnant, en fait.
Petite anecdote, parce que tu commences à parler des grenouilles et serpents. Serpents, t'as pas dit le nombre, à peu près, en Guyane, d'espèces?
Les serpents, c'est autour d'une centaine, à quelques espèces près. Oui, c'est ça, centaine d'espèces, oui.
C'est trois fois plus qu'en France, c'est énorme. Et moi, j'ai retenu une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, il y a ces fameuses grenouilles là, qui sont célèbres, là, les dendrobates, c'est des petites grenouilles arboricoles colorées. Est-ce que c'est vrai que ces grenouilles sont excessivement dangereuses au contact ou...
Alors, celles de Guyane, elles sont effectivement venimeuses. Après, maintenant elles sont protégées, mais avec les autorisations nécessaires, si on bosse dessus, par exemple, on peut les manipuler à la main, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous avez une petite coupure, ou si vous touchez une dendrobate et que vous vous frottez les yeux après ou les narines, là, ça fait mal. ça brûle. Ouais, c'est très, très déconseillé. L'espèce dont vous parlez, là, qui est très célèbre, en fait, c'est le phyllobate terrible. C'est une dendrobate de Colombie. De la côte pacifique de Colombie, qui est toute jaune, et qui, elle, au contact, peut entraîner la mort. Ou une paralysie du membre. Mais en Guyane, c'est pas du tout le cas, elles sont pas à ce point venimeuses.
Ok, on est rassurés.
Elles le sont suffisamment pour dissuader les prédateurs, et d'ailleurs, les couleurs vives sont là pour avertir justement de cette dangerosité, quoi. C'est ce qu'on appelle l'aposématisme.
En gros, plus c'est joli, plus ça fait mal, c'est ça? C'est méchant?
Eh ben, c'est ça. Plus vive et visible, plus faut se méfier.
Ouais.
Et c'est le cas dans plein de groupes. Hein. C'est-à-dire, on a le même cas chez certains papillons. Il y a des papillons très toxiques qui affichent clairement leur toxicité. Et après, plein d'espèces qui ne le sont pas, mais qui font semblant.
Quand tu dis qu'il y a des papillons très toxiques, c'est toxique à l'ingestion ou...
Tout à fait.
Et les chenilles sont également dangereuses ou pas?
Comme oui, de mémoire, puisqu'en fait, c'est souvent, elles tirent en partie les toxines des plantes dont elles se nourrissent. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je sais que certains papillons aussi vont aller récupérer des molécules toxiques quand ils sont grands sur les plantes, sur les sèves, les choses comme ça. Mais je suis moins spécialiste de ce groupe, donc je ne peux pas vous affirmer tout cela.
Il y a encore plein de questions là qui me viennent à l'idée, évidemment. Juste une question, parce qu'on ne se rend pas compte, nous, Européens, on a nos forêts qui, quand elles atteignent 40 mètres de haut, on est super contents. Tu peux nous donner quelques chiffres de dimension d'arbres? Est-ce que c'est bien au-dessus, je crois, en Guyane, la taille de la canopée, la hauteur de la canopée?
La canopée, elle se situe entre 35 et 45 mètres en moyenne. Après, il y a des émergents qui peuvent monter jusqu'à 60 mètres. Alors, c'est des choses qu'on va pouvoir recalculer parce que de plus en plus, ce qui se fait en Guyane, ce sont des lidars, et des relevés laser extrêmement précis. Et notamment, sur le littoral, là, il y a des atlas de la biodiversité communale qui sont un peu en cours, hein, partout maintenant sur le littoral, qui font appel à du lidar. Et on a commencé à s'amuser à regarder un petit peu quelles étaient les hauteurs maximales. Et je pense qu'on va avoir des surprises, hein, sur des arbres remarquables. On pourrait aller bien au-delà, enfin, pas bien au-delà, mais au-delà, on devrait pouvoir monter à même 70 mètres ou plus.
Wow. Ouais. Et en termes de diamètre, l'arbre le plus gros que tu aurais croisé sur le terrain?
Alors, en diamètre, je ne sais pas trop. Là, je vais vous le dire au doigt mouillé, mais j'ai vu des troncs qui faisaient... Alors, le problème, c'est que la plupart des grands arbres ont des contreforts très, très élargis. Les contreforts, si vous prenez d'un bout à l'autre, ça peut vite atteindre 10 mètres.
Oh. Okay.
Mais les troncs les plus gros, je pense qu'ils font autour de... Ils peuvent monter jusqu'à pratiquement, je suis en train de l'imaginer, quelque chose comme 3 mètres, je pense.
Okay.
3 mètres pour les vieux arbres de la Guyane, ouais, de la forêt.
Des mastodontes. Chers auditeurs et auditrices de Radio Barthès, c'est l'heure de la pause musicale. Avec une suggestion de Maëlle, on va écouter Eau de Zen, Souffle le vent.
Laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main. Sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec les deux. Allons plus loin, en autarcie. Voir comme c'est beau, les ciels pluvieux. Qu'un jour pluvieux, je puisse dire comme tout est beau, avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière. Jusque j'ai pas des choses primaires. Le vent clairé, l'esprit serein. Le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit. Pas, je voudrais qu'elle aime la terre entière, mais ça les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par jaune du toc et on regrette ce qu'on a perdu.
Et bienvenue sur Radio Barthaz dans l'émission Palabre en forêt, 107 FM. Nous sommes de retour sur l'émission de, autour de la forêt guyanaise avec Maëlle de Winter. Et Aymeric, tu avais une petite question.
Oh, j'en ai plein en fait. Moi, quand je t'entends parler, Maëlle, si tu es toujours là, j'essaie de comprendre comment fonctionne une mission de naturaliste en Guyane. J'avais cru comprendre que ce n'est pas simple à organiser les inventaires naturalistes comme nous en France, où on va dans un endroit, on va en voiture, on y reste 2-3 jours et on a fait notre inventaire. Vous, c'est différent ?
Oui, en effet, la Guyane est globalement peu accessible, si ce n'est, sur les deux frontières est et ouest, on a deux fleuves qui sont navigables, mais c'est long, il y a des sauts à passer, des rapides. Avec énormément de matériel, puisqu'en général, quand on part en mission, on part sur des durées de 10, 15 jours, voire plus. Et en gros, hormis ces accès fluviaux, le principal accès, notamment quand on travaille avec le parc amazonien de Guyane pour des missions naturalistes, c'est des accès en hélicoptère. Donc les sites, il faut trouver des sites de posée d'hélicoptères. Donc en général, on va aller vers des Inselberg, qui sont des sortes de montagnes rocheuses, des dômes rocheux comme un Rio, qui émergent de la forêt et sur lesquels on peut se poser et après accéder à la forêt avec tout le matériel, mettre notre bâche en bord d'une rivière pour avoir de l'eau potable, pouvoir se laver. Et à partir de là, en général, il y a toute une logistique de léonnage. Les agents du parc vont ouvrir, par exemple, des léons de plusieurs kilomètres de long. Un léon, c'est donc un sentier en forêt, ouvert à la machette, et qui va nous permettre d'accéder comme ça à tous les micro-habitats et de mener nos inventaires. Souvent, c'est des missions pluridisciplinaires, d'ailleurs. On essaye d'associer des ornithologues, des spécialistes des chauves-souris, des poissons, des amphibiens, des reptiles et des botanistes. Et voilà, et le parc on organise en moyenne une à deux par an, et les réserves naturelles également. Donc en fait, il y a régulièrement des grosses missions comme ça qui sont organisées, qui nous permettent de récolter des données un petit peu partout.
Et on part jamais seul.
Alors, si une fois qu'on est sur place, la plupart des, les personnes qui participent à ces missions ont un peu l'habitude de la forêt. Enfin, plus qu'un peu l'habitude, d'ailleurs, c'est vrai qu'on se sent un petit peu... On finit par se sentir un peu à la maison. Il y a peu de danger en forêt, sinon de se perdre. Et en général, on fait des binômes quand on part loin et quand on travaille la nuit. Moi, je préfère, parce que partir loin en forêt, plusieurs heures de nuit, tout seul, c'est jamais très, très rassurant. Donc pour des questions de sécurité, c'est mieux. Mais par contre, à la journée, par exemple, quand vous faites les comptages de mammifères, vous restez sur les léons, c'est mieux d'être seul, en fait, parce qu'on est silencieux. Ça offre la possibilité de faire des super observations. Des jaguars, des tapirs, des choses comme ça. En binôme, en général, on parle, donc on est un peu moins silencieux.
Oui.
Mais oui, c'est plus agréable. Moi j'aime beaucoup me retrouver seul en forêt. Et puis voilà, la nuit en binôme.
Et du coup, sur ces milieux très riches, est-ce que le changement climatique a d'ores et déjà des impacts sur la biodiversité, sur la fonctionnalité des écosystèmes ?
Alors, c'est la grande question en cours. Effectivement, est-ce que... on se pose vraiment la question de qu'est-ce qui va se passer ici. J'avoue que c'est un mystère un petit peu. Il y a des projections qui sont très alarmistes, qui montrent que la forêt amazonienne pourrait complètement basculer très vite dans une autre dynamique.
Ah oui. Très vite, c'est...
Très vite, c'est... Oui, c'est des systèmes de seuil, quoi.
Ouais.
Et alors, en Guyane, on pressent effectivement, notamment sur les forêts de montagne. Il n'y a pas des très grosses montagnes en Guyane. Hein. Le point culminant, c'est 800 mètres. C'est la grande tristesse ici, malheureusement. C'est qu'on n'a pas de sommet à 1000 mètres, comme il peut y avoir. Vous citiez le Guyana tout à l'heure, ou au Venezuela, au Brésil, où on a des montagnes qui montent à plus de 1000, 2000, 3000 mètres. Et du coup, avec tous les cortèges d'espèces associés aux différents étages. Ici, à 800 mètres, on est encore en forêt, quoi. Alors, c'est des forêts très moussues, qui baignent dans les brumes en permanence quasiment, avec des espèces complètement liées à ces habitats et qui descendent pas en altitude quasiment, qui sont en général sur les sommets des montagnes. Et là, on pressent sur des suivis qu'on a sur certaines grenouilles, notamment d'altitude, on pressent une diminution, on a même vu a priori disparaître certaines grenouilles, c'est très inquiétant, notamment des endémiques du mont Itoupé, qui est le sommet de la Guyane, une espèce que j'avais découvert en 2010, et on l'a revu en 2014, en 2016, puis en 2018 plus rien, et puis en 2020 plus rien, et en fait là ça fait 7-8 ans qu'on n'en voit plus. Et c'est très difficile de savoir si c'est lié au changement climatique, mais c'est une hypothèse forte en fait. La température étant plus élevée, c'est une espèce de ruisseau. Donc c'est peut-être qu'elles sont un peu moins à l'aise, peut-être qu'elles sont du coup un peu plus sensibles à des pathogènes, à des champignons, à des virus. Et je pense que c'est vraiment les premières sentinelles en fait de ce qui pourrait se passer. Dans un autre ordre d'idées, ces dernières années, alors je ne sais pas si c'est lié au changement climatique, mais en tout cas c'est lié à des variations un peu fortes ces derniers temps du climat. Notamment, on a essuyé ici pendant 3 ans ce qu'on appelle le phénomène La Niña. Ils sont alors en Guyane, c'est des énormes quantités de pluie en fait. On a eu des saisons des pluies interminables, des saisons sèches très courtes. Et suite à ça, il y a eu une énorme mortalité d'arbres et des hectares et des hectares de forêts qui sont mortes sur pied. Ça n'avait jamais été détecté en Guyane. Ça, j'ai des collègues qui, à l'ONF notamment, enfin des collègues et amis qui s'intéressent très près à ce sujet-là, qui sont très inquiets. Et je pourrais vous mettre en contact d'ailleurs si vous voulez un jour en parler. Mais oui, ça pourrait être effectivement des effets du changement climatique.
Le trop plein d'eau, c'est ça ?
Bah oui, en fait trop d'eau, et en fait c'est probablement des sols qui sont pas habitués à être engorgés.
D'accord.
Et en fait les arbres se sont littéralement noyés quoi, et ont pas survécu 3 années successives avec beaucoup trop d'eau.
Ah oui.
C'est l'hypothèse quoi. Alors le problème c'est que maintenant ils sont morts sur pied et que là on rentre dans ce qu'on appelle El Niño, qui est la contrepartie qui, générale, se traduit par des épisodes très secs. Donc des saisons sèches à rallonge, des températures élevées, des déficits en eau. Et là c'est hyper inquiétant parce que ces forêts qui sont mortes sur pied, elles pourraient s'enflammer quoi. Voilà, ça fait partie vraiment des tout premiers toutes premières preuves qu'ici se passe quelque chose aussi. Après, ce qui est très 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 inquiétant ici en Guyane, c'est que les espèces qui vivent dans le sous-bois ont une tolérance aux variations de température qui a rien à voir avec celle d'Europe, par exemple. En France, une grenouille, elle va être capable d'hiberner, de supporter des températures très très faibles, et puis même en été, des fois, ça monte maintenant à 40-45 degrés. Elle s'enterre, elle survit, quoi. Ici, c'est pas le cas, c'est un milieu très tamponné, la forêt. Quand on est en sous-bois, la température, elle oscille de quelques degrés maximum entre le jour et la nuit. Et en fait, si la température moyenne augmente un petit peu, la plupart de nos espèces du sous-bois vont probablement plus être du tout dans leur zone de confort, et ça va les fragiliser.
Ah oui,
oui. Donc oui, c'est un petit peu inquiétant, oui.
Oui, effectivement, du coup, oui, parce que la forêt est trop protectrice, finalement, et du coup, ouais, le moindre aléa fait du mal. D'accord. Et alors, la gestion forestière, est-ce qu'il y en a dans cette forêt guyanaise et comment tu l'aperçois? Et du coup, s'il y a une gestion forestière, par exemple, où vont les bois? Est-ce qu'il y a une filière bois locale structurée, développée?
Alors bon, je ne suis pas le plus à même pour en parler, hein, clairement,
oui.
Mais j'ai travaillé pendant 12 ans à l'ONF, donc j'ai quand même eu des collègues qui étaient des forestiers, j'ai côtoyé des forestiers, on en a beaucoup parlé. Donc l'Office national des forêts ici est l'organisme en charge de la gestion forestière. Elle intervient sur ce qu'on appelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, le domaine forestier permanent, qui est une sorte de bande très large en fait, qui littorale, et avec des tout petits ensembles après à l'intérieur autour des communes isolées dans la forêt, et sur lequel en fait il y a des plans d'aménagement qui sont faits avec des dessertes, en fait, des routes qui sont créées sur des fonds notamment européens, parce que ça coûte évidemment un bras, tout ça. Et après, ces forêts, selon les massifs, peuvent avoir des vocations de production de bois, de conservation, d'aménagement touristique, voilà. J'imagine comme en France, plusieurs utilités. Et donc, il y a des aménagements, il y a des évaluations des stocks de bois, qui, de façon de plus en plus scientifique, hein, des vrais suivis scientifiques sur la croissance des arbres, le temps de rotation avant de revenir exploiter une forêt. Je sais que récemment c'était encore 80 ans. Je sais pas si ça si ça a évolué, si finalement c'est trop court ou si c'est correct. Et en général, quand un massif est exploité, alors pas par l'ONF, hein, l'ONF aménage. Après, ce sont des exploitants privés. Mm-hmm. Ce sont des scieurs et des exploitants forestiers, en fait, qui exploitent. Je suis incapable de vous dire le nombre d'arbres qui sont exploités par hectare. Mais la stratégie, évidemment, c'est d'aller vers une exploitation à faible impact. Donc, essayer de minimiser le nombre d'arbres collectés et essayer de minimiser tous les impacts liés à la circulation des engins lourds en forêt. Et surtout après refermer les pistes pour éviter la chasse, parce que l'un des gros problèmes aussi, c'est que ça crée des voies d'accès aux chasseurs et il y a toute une faune très sensible, en fait, qui est dans ces massifs forestiers.
D'accord.
Après, pour poursuivre, donc c'est une petite filière bois de mémoire. Il n'y a pas tant d'exploitants que ça. Il y a quelques scieries. Et elle est essentiellement dirigée vers la consommation locale pour la construction.
D'accord.
À ma connaissance, il y a très peu d'exports de bois depuis la Guyane, et c'est clairement très subventionné. C'est-à-dire qu'elle elle est probablement pas rentable.
Ah oui, d'accord. On retrouve les mêmes enjeux. C'est épatant.
Mais ça, je vous encourage vraiment à contacter la direction de l'ONF en Guyane ou des forestiers. Là, pour le coup, qui vont vous apporter plein d'éléments récents et factuels.
D'accord, merci. Il n'y a pas d'enjeu de surexploitation, alors ?
Non, clairement pas. Okay. On n'est pas. C'est la bonne nouvelle en Guyane, en tout cas. Moi, je vois. Je suis très inquiet parce que, par exemple, au Suriname, il semblerait que donc le pays juste voisin, que des immenses concessions aient été vendues à des compagnies chinoises Et là, on s'oriente globalement vers la coupe à blanc ou en tout cas l'exploitation quasi minière, quoi.
Ah oui, d'accord.
Enfin, que j'entends minière du bois, quoi. C'est on prélève. Tout ce qui est à prélever, peu importe.
Ils ne font pas repousser, ils ne s'occupent pas
Attendez, c'est ça. Ici, il y a une vraie réflexion de un petit peu ce qui avait été un peu à l'ancienne en France, quoi. C'est-à-dire essayer de renouveler en permanence cette ressource.
D'accord.
C'est pas simple en Guyane. Hein. C'est des forêts qui sont souvent très âgées. Il faut plusieurs centaines d'années pour reconstituer une vraie forêt.
Vas-y, Aymeric.
Moi, il faut m'arrêter. C'est moi qu'il faudra arrêter hein, parce que je suis très curieux. C'est quelque chose qui me taraude de venir en étudier les mousses. Moi, je suis branché mousses hein, dans les mousses de Guyane. Ça m'intéresserait. Mais c'était plus une curiosité de ton vécu en Guyane. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton espèce fétiche, si tu en as une, ou d'une émotion un peu forte que tu as vécue avec une bête ? Que ce soit de la peur ou de la joie, j'en sais rien. Je trouve ça intéressant de faire vivre ça à nos auditeurs.
Ça va être très cliché, hein, mais c'est vrai que l'une des rencontres qu'on espère longtemps en forêt, c'est un face-à-face avec un jaguar, évidemment, puisque c'est le plus gros prédateur d'Amérique du Sud, c'est quasiment un des plus gros félins aussi au monde. Mais il n'y a pas le risque qu'on peut avoir avec les lions et les tigres. Donc en fait, ça va générer beaucoup d'émotions, mais c'est pas mortel.
parce qu'ils sont plus gentils.
Il y a quasiment aucun cas d'attaque. Ils sont pas, il y a pas d'agressivité envers l'homme, et je pense qu'on n'est pas considéré comme une proie. C'est quelque chose que j'ai attendu longtemps, que d'autres attendent toujours. Et puis des fois, il y a des touristes qui viennent et le deuxième jour, ils en voient. Donc quoi, c'est le bol, mais j'ai eu l'occasion, il y a deux occasions de croiser la route d'un jaguar, et notamment un souvenir qui est complètement gravé. J'étais en mission sur un Inselberg, donc sur la roche nue, et je longeais la lisière au petit matin pour essayer d'identifier les oiseaux. Donc ça bougeait un petit peu partout, il y avait de l'activité, c'était très sympa, parce qu'en plus c'était dans le sud de la Guyane, donc on s'attend toujours à voir des espèces peu connues, enfin tous des trucs qui viennent du Brésil, qui sont pas connus dans le Nord, quoi. Et là, ça bouge, je vois la végétation bouger, je me dis, ah, il y a un gros oiseau, et là, il y a une tête de jaguar qui sort, et qui me regarde fixement à 15 mètres. Oh. J'avais l'appareil photo avec le 300 mm autour du cou, et je l'oublie complètement d'ailleurs. Et le jaguar sort sur la roche. Donc en fait, on se retrouve à 10 mètres l'un de l'autre, debout sur la roche, à se regarder. Et j'avais des collègues qui travaillaient, des botanistes qui étaient un petit peu plus loin sur l'Inselberg. Et je les entends rire, en fait, de loin. Et je crie, il y a un jaguar, il y a un jaguar. Et les gars, c'est véridique, ils disent, oh, on le voit pas, attire-le. Et il y avait une langue de végétation, en fait, qui masquait la vue d'où j'étais, quoi. Ils me voyaient, mais ils voyaient pas le jaguar, quoi. Et donc, je me suis baissé, je me suis mis accroupi, et j'ai commencé à faire, et en bougeant mes doigts, comme ça. Et le jaguar m'a regardé, et hop, d'un seul coup, il s'est tendu.
Ah oui.
Et il a commencé à venir vers moi en avançant, c'est comme un chat qui s'approche d'une souris, quoi. Et plus il s'approchait, plus il descendait, plus ses épaules s'abaissaient. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est approché, il était à 3-4 mètres.
Oh wow.
Et là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que je fais, quoi.
Donc,
je me suis relevé, j'ai écarté les bras et j'ai parlé fort, à moitié inquiet et complètement subjugué en même temps. Et à ce moment-là, les autres m'ont dit, j'ai entendu au loin, oh, on le voit. Évidemment, personne n'a pris de photo.
Oh.
Et oui.
Bah, vous l'avez dans la tête.
Le jaguar a entendu les autres, a tourné la tête, les a regardés, m'a regardé. J'ai senti un regret, manifestement, dans son regard. Et il a fait demi-tour, il est parti. Et je suis resté debout comme ça, les bras ballants, à me dire, waouh. Et c'est fou. Je vais reprendre j'avais entendu Vincent Munier, le photographe, dire ça à un moment. C'est vrai que c'est ça qui est bien en Guyane, c'est ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les hautes montagnes ou dans les grandes forêts ou dans le nord, etc., de l'Europe. C'est la présence de grands carnivores ou d'animaux dont on n'est pas les maîtres, quoi, qu'on maîtrise pas. Mmh. Et je trouve ça toujours passionnant d'être en forêt et de se dire, waouh, il y a peut-être un jaguar qui est en train de me regarder, il y a peut-être un puma qui est en train de me regarder, je suis peut-être passé à 10 mètres d'un jaguar sans m'en rendre compte. Et c'est cette petite pression permanente là qui fait que c'est très excitant, en fait, de travailler en Guyane.
Mmh. Ça, je te comprends bien. Est-ce que tu as quelques notions d'entomologie ou est-ce que tu as... Parce que moi, j'avoue que la Guyane m'attire, mais m'effraie en même temps par rapport à toutes ces petites bêtes qui s'invitent dans tes habits ou je sais pas quoi. Je pense à une amie qui était en Guyane qui s'était fait ravager par des petites fourmis qui l'avaient agressée.
Oui.
Mais c'était même en pleine ville.
D'entomologie, c'est... On va dire l'entomologie entre guillemets nuisible, même si le terme, j'aime pas du tout le terme, mais
oui.
On va dire c'est la biodiversité, ça va aussi avec ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'insectes qui se nourrissent de sang, et il y a tout un tas de zoonoses qui sont transmises à l'homme. Donc ça va partir effectivement de la dengue, des choses comme ça. Enfin, maintenant on connaît aussi en France et ailleurs. Hein.
Uh-huh.
Mais oui, on a des tiques ici qui sont capables de transférer ce qu'on appelle l'alpha-gal, la maladie qui a sauvé le monde, puisqu'en fait on devient complètement allergique à la viande. Donc j'ai plein d'amis naturalistes, moi je croise les doigts encore, mais qui peuvent plus manger de viande, en tout cas de mammifères. Ils sont devenus allergiques et c'est bon, ça les met dans des états pas possibles. Donc oui, ça c'est
extraordinaire.
Des maladies. Mais après, oui, il y a quelques petites saloperies, quoi. Il y a des leishmanioses, des maladies un peu des champignons qui sont, on va dire, tous guéris, mais bon, ça peut être difficile. Voilà. Mais faut aller loin en forêt, hein. Je veux pas. L'idée, c'est pas de donner une image de la Guyane.
Non, mais bien sûr que non. Et on a plein de clichés, nous, du continent qu'il faut qu'on. Il faut qu'on passe par-dessus. Et est-ce que la fourmi légionnaire est présente en Guyane ?
Tout à fait, oui, ouais. Bien sûr.
T'as déjà fait une rencontre d'une colonne de légionnaires
J'ai presque envie de dire que c'est quasi quotidien qu'on est en forêt.
Et qu'est-ce que c'est cette fourmi légionnaire alors ?
Pardon ?
Qu'est-ce que c'est la fourmi légionnaire ?
Alors c'est le genre Eciton. Sont des grosses fourmis en fait qui vivent en immense colonie extrêmement nomades mobiles. Donc elles bougent en permanence, c'est des milliers d'individus. Et elle parcourt la forêt à la recherche de donc elle, la litière essentiellement, mais elle monte aussi tout ce qui peut se manger. Donc ça peut être évidemment tous les insectes qui traînent dans la litière, mais ça va être aussi des petits vertébrés. Je pense qu'un serpent qui se fait prendre dans une colonie de fourmis légionnaires, il a peu de chances de s'en sortir. Il faut vraiment partir vite. Hein. Elles sont très agressives. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est que les oiseaux ont très bien compris le système. Et en fait, il y a des oiseaux qui se réunissent en ronde. Donc, c'est plusieurs espèces qui se réunissent et qui chassent exclusivement au-dessus des nappes de fourmis légionnaires. En fait, elles les accompagnent pour manger les insectes qui sont chassés par les fourmis légionnaires. Et alors, c'est très intéressant de, c'est très important de retenir les chants de ces oiseaux parce qu'en fait, ce qui se passe en général quand on se promène en forêt, on commence à avoir des oiseaux partout. On s'arrête, on sort les jumelles, on essaye d'observer. Et en fait, c'est souvent le signe qu'on a les deux pieds dans une colonne de fourmis et on n'avait pas regardé. Quoi. Et ça peut vite se terminer en caleçon à essayer d'arracher les fourmis qui sont montées le long du pantalon. Quoi.
Ah, parce qu'elles font des morsures.
Elles mordent, ouais, elles mordent fort. Ouais. Après, bon, il y a pas de, elles piquent, elles mordent, mais bon, ça va. Hein, c'est juste un mauvais moment à passer.
Ah oui.
Et très souvent, effectivement, ce qui est assez marrant, mais c'est le cri quand on se balade à deux ou trois en forêt en mission, c'est quelqu'un va se mettre à hurler attention aux fourmis et tout le monde part dans tous les sens en courant pour pas se retrouver voilà à devoir se les arracher une par une après.
Ouais.
Et voilà, oui, c'est un phénomène très très courant de les croiser en forêt.
Ouais, parce que j'avais lu quelque chose là-dessus, ça m'avait fasciné. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. Et autre fourmi, il y en a une autre fourmi. Et la fourmi balle de fusil, t'en as déjà entendu parler ou pas? Les Amérindiens,
oui, oui,
toute une pratique.
Tout à fait. On les voit aussi. On peut les voir aussi dans les forêts littorales. Elles sont pas que en pleine forêt mature. Oui, c'est des forêts. C'est des fourmis qui font 3 cm minimum, peut-être 3-5.
Oh là là.
Toutes noires et brillantes. Les Paraponera. Paraponera clavata, en l'occurrence, cette espèce-là. Elles vivent en petite colonie de quelques soldats, d'ailleurs une reine, j'imagine, et elles chassent en groupe. Et alors moi, j'ai jamais été piqué par ça. Ma compagne avait été piquée, ça l'a complètement mis HS.
J'avais lu que c'était une des pires douleurs au monde.
Ah oui.
Alors je ne sais pas si c'est la pire, mais elle avait été vraiment secouée. Et c'est un peu comme les scorpions, la douleur va durer longtemps, quoi.
Mmh.
Ça reste. C'est effectivement l'espèce qui a été une des espèces qui est utilisée dans les cérémonies du maraquet chez les Amérindiens, alors notamment les Wayana sur le haut Maroni. Et en fait, ça se fait encore. Alors moi, j'en ai fait une, mais c'était pas avec des fourmis des Paraponera, et c'était après le passage sur plusieurs personnes. Donc en fait, il y avait beaucoup moins de venin. Mais c'est effectivement les fourmis sont mises dans un
En fait, sont gants, c'est ça.
Sont tissés en fait, sont tissés dans un. Je suis en train de chercher le. Dans une vannerie en fait,
ouais.
Avec les abdomens qui sortent d'un côté et le reste du corps de l'autre côté, quoi.
D'accord.
Et c'est appliqué sur plein d'endroits du corps de l'enfant. Donc c'est un peu de la torture quand même, hein, d'une certaine façon, parce que
C'est extrêmement douloureux. Pardon.
C'est un rite de passage. C'est un rite de passage. C'est un rite de passage. C'est de moins en moins pratiqué. Je sais que certains enfants demandent malgré tout à le faire parce que je pense qu'il y a une envie de passer par ce rite de passage et souvent ça se traduit par l'enfant va pas mal délirer quand même hein, pendant quelques temps parce que c'est violent. Hein.
Ah oui, ça donne la fièvre et tout.
Ça, c'est donc du coup c'est effectivement avoir le courage de se laisser piquer et après la capacité à encaisser les fièvres que ça va engendrer suite à l'envenimation. Ouais.
D'accord. ouais, ok. et du coup, c'est dans plusieurs communautés de Guyane qu'on retrouve ce rite ou...
Alors, ce sont les communautés amérindiennes.
D'accord.
Les Wayana le font, donc ça, c'est les communautés qui sont sur le haut Maroni, donc à la frontière du Suriname. De l'autre côté, avec la frontière du Brésil, on a les Teco et les Wayampi. Les Wayampi le pratiquent, mais alors par contre, je veux pas dire de bêtises, hein, je sais pas à quel rythme les Teco, je sais pas justement s'ils utilisent le maraquet.
D'accord. Les communautés amérindiennes, en termes de population, du coup, aujourd'hui, ça reste une part notable.
Petite part.
Une petite.
Non, c'est une petite part. Elles sont. Okay. Il y a vraiment les communautés, on va dire, de la forêt. Oui. Je vous disais, il y a trois grandes communautés qui sont vraiment dans le sud, en gros. On va dire, côté Brésil, c'est sur à partir de Camopi. Donc, il faudra regarder sur des cartes, mais en gros, oui, c'est la moitié de la Guyane. Camopi, et il y a quelques petits villages isolés jusqu'au Grand Sud, notamment Troisso, où là, c'est des petits villages avec quelques centaines d'habitants. Et de l'autre côté, on a Maripasoula, qui est la plus grosse commune de France, mais le centre-ville est pas immense, hein, y a pas une population énorme. Mais sur la commune de Maripasoula, et après les petites communes d'Antecumpata, et en allant vers le sud sur le Maroni, on a aussi quelques communautés de quelques centaines de personnes. Voilà, avec toute la difficulté que ça entraîne de vivre dans ces coins isolés, mais d'être français, donc avec l'école obligatoire, les enfants sont obligés de... Les collèges, il n'y en a pas partout, donc faut quitter en gros un moment le village quand ils sont encore jeunes pour aller étudier, enfin c'est compliqué.
Ah oui,
quoi.
La mobilité, ouais, d'accord.
C'est difficile, ouais.
Oui.
J'ai toujours plein de questions, on va devoir à un moment s'arrêter, mais par rapport à ton travail de naturaliste et justement ces communautés amérindiennes, est-ce que tu arrives à bénéficier de l'expérience des Amérindiens pour certaines recherches ou pas? Est-ce que ça t'est...
En fait, quand on travaille avec le parc national, on travaille du coup avec les agents de terrain. Et donc dans les délégations à l'intérieur du... En fait, le parc national, il a une antenne sur le littoral, et après ils ont des délégations dans l'intérieur, et la plupart des agents sont issus des communautés locales. Donc en fait, quand on travaille avec le parc national, naturellement on va travailler avec les agents du parc, qui sont selon la localité soit Teco, soit Wayampi, soit aussi des noirs marrons, hein, c'est-à-dire les Bonis, les Saramaca, qui sont sur le bas Maroni. Et oui, on échange beaucoup. Après, moi, j'ai peu eu l'occasion d'aller travailler dans ces communautés. C'est toujours un petit peu délicat de s'inviter chez eux pour faire de la recherche, par exemple. Il y a quelques années, à la demande d'une jeune Wayampi, qui s'appelle Ishi, qui avait travaillé, en fait, qui a passé son bac sur le littoral et qui a fait un BTS de protection de la nature. Elle a voulu organiser une mission d'inventaire autour de son village à Troisso. Donc, elle a vraiment organisé quelque chose avec le parc national. Il y a une dizaine d'élèves qui sont venus. Moi, je les ai encadrés pour la partie inventaire. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler avec les populations amérindiennes. Mais c'était plus en mode... c'était pas tant sur le terrain. C'était plus en mode, tiens, est-ce que vous avez vu cette bestiole, comment elle s'appelle, celle-ci, sachant qu'actuellement, c'est un peu délicat, c'est un vaste sujet, mais... De capter des connaissances des populations locales. Tout ça est très encadré maintenant.
Pourquoi?
C'est notamment par rapport au protocole de Nagoya sur les connaissances et l'utilisation de la biodiversité. Donc, c'est des choses où... ça demande des dossiers solides, évalués, ça demande de ne pas piller tant la connaissance que les ressources.
Bien sûr, c'est important, oui.
Et c'est une des difficultés actuellement de travailler avec ces populations locales. Ouais.
Pour finir, on a encore deux toutes petites questions, parce que là, je pense qu'on va faire une émission longue, mais c'est tellement passionnant. On a parlé de plein d'endroits. Est-ce que si demain on va en Guyane, est-ce que tu aurais un endroit à nous conseiller?
Pour les mousses.
Alors pour les mousses. Alors,
les mousses, petit aparté, il y a un guide en anglais, il y a un livre qui est sorti sur les mousses de la commune de Sahul. Donc il y a déjà une petite flore disponible. Moi je proposerais d'y aller par étapes. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous atterrissez à Matoury, à l'aéroport. Là, sur l'île de Cayenne, on a des monts boisés qui sont entourés dans un tissu urbain. Il y a notamment le mont Mahuri, le Rorota, qui est le premier sentier où, en général, on amène la famille ou les amis qui débarquent pour la première fois en Guyane, où là, on est déjà immergé en forêt, on voit des paresseux, on voit des singes, c'est du garanti 100%. Et waouh! Après, dans un second temps, il y a la réserve du Mont Grand Matoury, qui est une forêt un peu plus ancienne, sur laquelle on va pouvoir voir de la vraie flore, cette fois-ci, ancienne, on va dire de forêt mature.
Super.
Et puis après, à une demi-heure de voiture, il y a la montagne de Caux, la grande dorsale de la montagne de Caux, qui amène au marais de Caux, où là, on a vraiment de la très belle forêt avec de la grande faune. Ça, c'est, on va dire, sur les premiers jours. Et après, ce qui est quasi inévitable, c'est de prendre un billet d'avion, d'aller à Saül. Donc, il y a une demi-heure de vol. Et là, vous arrivez dans un petit village qui est complètement paumé en forêt avec tous les services possibles et imaginables. Il y a des gîtes pour l'accueil, il y a des restaurants, il y a les pompiers, il y a tout ce qu'il faut. Ah ouais. Et là, vous êtes dans un, vous êtes en pleine forêt guyanaise avec des réseaux de sentiers de, je sais plus, il doit y avoir 100, de, plus de 100 km de sentiers qui ont été tracés en boucle, qui vous permettent d'aller faire des balades à la journée sur 15, 20 km. Et là, là, vous êtes vraiment immergé dans la grande verte. Oui.
Super, merci.
Émeric okay. a tout noté.
Je prends mon vol, ah oui. mon bateau, je ne sais pas trop.
Tu vas bientôt rendre la vie.
Une agence de voyage, je crois que... Et on se... Voilà, on propose un petit rite de passage, nous aussi. Un peu plus sympathique hein, que les fourmis, quand même. On propose à tous nos invités d'ajouter un petit mot forestier. Ça peut être un souvenir, un souhait, ce que tu souhaites. Est-ce que tu veux partager ça avec nous ?
Ouh là là ! Mm-hmm. En fait, je vais quasiment raconter. C'était mon anecdote avec le jaguar. Mon
petit ah ! Eh ben oui, c'est déjà fait. Voilà,
mais nous, comment on est ? Il est déjà fait, mais je...
Ah oui, c'était merveilleux. Et ouais, non mais on est trop gourmand. Voilà, c'est tout.
Eh ben, le souhait super, peut-être, ouais. c'est que vous veniez un jour faire une émission ici.
Avec plaisir. Voilà.
Nous vous allons délocaliser pendant 2 semaines et puis vous venez rencontrer les acteurs de la forêt ici en direct.
Ah mais avec
excellente idée.
Avec grand plaisir, nous allons faire écouter ça. L'émission à nos patrons et patrons respectifs. Et ben merci beaucoup Maëlle de Winter d'avoir partagé. Toutes ces connaissances et ce vécu autour de la forêt guyanaise, ben, bien sûr, oui, on a envie de venir, nous, demain. Et
il n'y a plus qu'un.
Non, ben, j'espère à très bientôt, en fait, hein, tout simplement.
Vous avez mon numéro.
Ouais, oui, ça marche.
Avec plaisir. Merci.
Merci beaucoup, Maëlle.
Au revoir.
Et maintenant, place à Émeric Sulmont du Parc National des Cévennes et sa fameuse rubrique « Plantes et animaux des bois ».
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens. Ça va souffler le chaud et le froid. Alors, là, pendant un moment, on a entendu parler plutôt du climat tropical et des chaleurs de Guyane, avec tout un tas de bêtes qu'on n'a pas du tout ici. Et là, je voulais faire un truc de saison, parce qu'on est quand même au mois de janvier en ce moment, et vous faire part d'une étrange découverte que j'ai faite il y a quelques années et que je n'ai pas su expliquer tout de suite. Et cette étrange découverte, ça a été fait justement à cette période, au mois de janvier, dans des forêts du mont Bougès, en plein milieu du cœur du parc national des Cévennes. J'étais avec une collègue, on se baladait dans une forêt de hêtres. Il y avait du bois mort au sol. Le temps était très humide, mais il avait gelé récemment. Une gelée sans plus. Et on se balade dans cette forêt, et sur le bois mort. Moi, j'ai toujours un peu l'œil là-dessus. Je regarde un peu s'il y a des champignons, des mousses, des choses comme ça. Et on voit une étrange formation. Qu'on pourrait décrire comme des cheveux de glace. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette extraordinaire chose.
Non.
Et peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu sans pouvoir l'expliquer. Et donc, vous voyez des branches mortes de hêtres avec des cheveux de glace. C'est vraiment des trucs très fins qui ressemblent à de la glace. Et c'est en fait bien de la glace, mais un peu plus que de la glace. Et qui forment comme une grosse moisissure qui peut atteindre 10, 15, parfois jusqu'à 20 cm, qui sortent qui ont l'air de sortir de la branche. Et cette impression magique, c'est très original parce que vous prenez cette chose en pensant que c'est peut-être un champignon, une moisissure, vous la prenez dans la main, évidemment avec la chaleur de votre main, ça fond. Et c'est de l'eau. Je vous dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en même temps, vous n'avez jamais entendu parler de filaments de glace. Alors, on pourrait comparer, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, vous connaissez tous, quand vous avez marché sur du sable qui a gelé, ou de n'importe quel sol un peu terreux qui a gelé fortement, vous avez des peep cracks. C'est des sortes d'aiguilles de glace qui se forment et qui font remonter pas mal de bouts de cailloux à 5-6 cm au-dessus du sol. Et c'est des aiguilles de glace qui sont à la verticale du sol et qui se forment dès qu'il fait très froid dans des sols humides. Mais c'est assez brutal. Et donc, ça s'appelle, les Anglais appellent ça pipe cracks. Et ça ressemble un petit peu à ça. Mais ça, c'est purement mécanique. Alors que là, l'intérêt de cette chevelure de glace, qui est très originale et qui a été étudiée, mais depuis longtemps, et c'est là où c'est très original, ça a été étudié par le créateur de la théorie de la dérive des continents, qui s'appelle Wegener. Il a décrit ça en 1912, la théorie des dérives des continents. Et Wegener s'est intéressé aussi, de plus ou moins naturaliste, et il se baladait dans les Vosges en pleine Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1916-1917. Il voit cette formation de glace très originale, et il décide de regarder un peu plus près avec ses étudiants. Ils mettent en évidence que c'est lié. C'est complètement lié à la présence d'un champignon. Ils ne trouvent pas ces filaments de glace s'il n'y a pas un champignon. Et c'est ce champignon qui a un nom à coucher dehors, comme tous les noms de champignons méconnus, parce qu'il ne ressemble pas à grand-chose. C'est une espèce de moisissure blanchâtre qui recouvrirait, blanchâtre arrosé, qui recouvrirait le bois de hêtre au sol. Mm-hmm. Et qui, sans lui, il n'y a pas de cheveux de glace qui se forment. Mais quand il est présent, à la condition que le sol soit très humide et que brutalement il gèle, et qu'on soit plutôt très tôt le matin, il y a formation de cette chevelure de glace.
D'accord.
Et récemment, il y a une équipe d'Allemands qui s'est penchée sur la question pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mmh. C'est le mystère exact de comment ça se forme, ce n'est pas encore clair. Mais en tout cas, chaque filament de glace sort d'un des pores naturels du hêtre. Et si on coupe le hêtre dans la tranche, ceux qui l'ont déjà coupé du hêtre dans la tranche, on voit plus les sortes de filaments radiales, donc en rayon, qui sortent du centre d'une coupe de hêtre, plutôt que les cernes. Les cernes du hêtre ne sont pas faciles à voir. Mmh. Et c'est à l'embouchure des sorties de chacun de ces rayons que sortent les filaments de glace, donnant une impression de grande moisissure.
Et on ne veut pas échapper, nous, le nom à coucher dehors de champignon.
Ah oui, bien sûr. Je vous le donne, vous êtes prêts. Merci. Ouais. Ça s'appelle Exidiopsis effusa. Mmh. Voilà. Les Anglais appellent ça air ice mushroom. Donc on pourrait traduire en cheveux de glace, chevelure de glace, cheveux d'ange. Ça pose un peu plus de problèmes de confusion avec des plantes qu'on appelle aussi cheveux d'ange. Donc il vaut mieux appeler ça chevelure de glace. Moi, je trouve ça très joli. Alors j'espère que dans vos prochaines balades hivernales, vous rencontrerez la chevelure de glace. Et c'est magnifique à observer.
On ouvrira l'œil en tout cas.
Oui.
Voilà. Merci. Peut-être pas en Guyane, mais si tu viens dans le continent en plein hiver.
J'allais te dire que ça fait vraiment écho à quelque chose de très récent, puisque pour la première fois, là, j'étais à La Réunion l'été dernier, et sur le Maïdo à 2000 mètres d'altitude, j'ai vu pour la première fois ces cheveux de glace qui sortaient du sol.
Ah, super.
Oui. Et je me suis demandé comment ça se formait. Alors, ça sortait pas d'un champignon. Là, c'était ceux qui sortent du sol. Ouais. Mais ça m'avait scotché aussi.
Ah oui, les pipes cracks. Ouais.
Oui, tout à fait. Mais j'avais jamais eu ça nulle part. Donc,
Et qui explique des fois quand ces trucs se forment sur des terrains en pente, ça explique des fois le petit mouvement, le déplacement de certains cailloux de plus en plus vers le bas. Puisque en fondant, il chute un petit peu. Et donc, il se déplace. Ça explique le mouvement d'une certaine érosion en fait en montagne. Mais multiplié par des milliers et des milliers de gels, ça finit par avancer quand même. Voilà, c'était la petite note, comment on peut dire, un peu géologico-botanique.
Eh bien, merci Aymeric.
Merci beaucoup Aymeric.
À bientôt.
À bientôt, ouais. Merci Maël encore une fois et à bientôt auditeurs et auditrices de Radio Barthès. Rendez-vous prochainement sur le 107FM.
Palabre
en forêt.
L'émission
L'Ose et Regardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs.
Avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107 FM.